Ce matin, on va parler de trois sujets. Si on peut mettre le premier diapos là. Premièrement, nous sommes sauvés. Deuxièmement, nous sommes en train d'être sauvés. Et troisièmement, un jour, nous serons sauvés.
Amen.
Amen. Vous êtes venus jusqu'à ce point dans ta marche spirituelle. Le voyage était long et dur. Pour certains, c'était épuisant. Mais vous êtes arrivés jusqu'ici dans votre voyage avec le Seigneur. Amen.
Amen.
Et comme dans le voyage qu'on fait en voiture, il faut regarder la carte, la GPS de temps en temps. Car même si nous savons où nous sommes et nous savons où nous allons, il faut regarder la carte pour savoir si nous sommes toujours sur la bonne route. Normalement, ce n'est pas une ligne tout droit qui va de A jusqu'au B. Et c'est comme ça dans la vie spirituelle aussi. Nous voyageons du point où nous étions au commencement de la vie. Et de ce point, nous voyageons. Et nous errons jusqu'au jour où Jésus nous trouve. Perdus, et nous lui donnons notre vie. Peut-être vous le savez déjà, la Bible dit que nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, et un jour, nous serons sauvés. Si on regarde dans Actes chapitre 15, verset 11, il dit, « Non, voici au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs de la même manière que. » Cet verbe-là, c'est « sostenai ». C'est dans le passé passif. Nous sommes sauvés. Mais dans un autre verset, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, il dit, « Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. » Cet verbe-là, c'est « sozomenois ». C'est le participe présent passif. Sur la voie du salut, en train d'être sauvé. Et un troisième verset. Romains, chapitre 5, verset 9. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes à son sacrifice, grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Le verbe là, c'est sozene ometa. C'est le verbe dans le futur passif. Nous serons sauvés. Donc nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, et un jour, nous serons sauvés. Donc qu'est-ce que tout cela veut dire? D'abord, nous sommes sauvés. Le salut commence le moment où nous choisissons de suivre Jésus. Et le salut finit quand nous sommes enfin avec lui. Nous le verrons face à face. Et entre le commencement de cette démarche et l'arrivée devant Jésus, nous sommes en train d'être sauvés. Mais nous avons tous besoin d'être sauvés. Qui d'entre nous est allé tout de suite à la première étape? Le salut en Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ici, la première chose qu'il a fait dans sa vie, c'était de venir à Jésus? De commencer son démarche avec Jésus avant de faire un seul péché. Il y a quelqu'un ici? Personne. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché, c'est le changement de sens. Au lieu d'aller vers Dieu, on va dans le sens opposé. On s'éloigne de Dieu. Plus on choisit le péché, plus on continue dans ce sens, et on va de plus en plus loin de Dieu. Pour retourner à Dieu, il faut se repentir, faire demi-tour et changer de sens. On se dirige vers Dieu dans le plan merveilleux que Dieu a fait pour nous. Et on se dirige vers le paradis. Amen. Et puisque nous avons tous péché, nous avons tous besoin de changer de sens. Nous avons tous besoin de nous repentir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas encore commencé à suivre Jésus. Je t'assure que ce n'est pas un accident que tu es ici aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tu m'entends maintenant. Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui t'aime et qui t'a aimé quand tu es né. Et son amour ne change pas. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Le diable, l'ennemi de ton âme, c'est lui qui veut te tuer et te détruire. Il a aussi un plan pour ta vie. Et c'est toi qui choisis quel plan s'accomplira pour toi. Il y a deux choix. Il n'y a pas un troisième. Si tu refuses le plan de Dieu, tu choisis par défaut le plan du diable. Nous qui sommes sauvés par Jésus le Messie, nous suivons Jésus qui est au ciel et nous nous dirigeons vers le ciel. Le ciel qui est en haut. Celui qui choisit de pécher choisit une mauvaise pente. Une pente descendante. Quand nous nous trouvons sur une pente descendante, il faut se repentir. Ça veut dire changer de pente. Il faut changer de sens. Se diriger vers le haut. De tourner le dos sur la mauvaise pente. Et remonter. Amen. En montée, ce n'est pas facile. Pour ceux qui entre vous qui n'ont jamais fait du ski, imaginez ceci. Peut-être que tu as déjà expérimenté ça. Vous prenez le télésiège et vous arrivez en haut de la montagne. Et vous êtes là. Et il faut choisir la pente pour la descente. Mais il y a plusieurs. Vous regardez ce qui est affiché là-haut. Et enfin, vous vous dirigez vers une piste verte. La piste plus simple. Mais 10 mètres plus bas, vous voyez ce panneau comme ça. Seulement les experts. Mais tu ne veux pas cette pente-là, tu veux la pente facile, la pente verte. À ce point-là, vous savez qu'il faut se repentir. Mais pour monter et trouver la bonne piste, la piste verte, ce n'est pas facile. C'est 10 mètres de petite, pas comme ça. Pour montrer? Et cliquez sur le... Oh. Retourne en arrière et clique sur la vidéo. D'accord. Voilà. Ça prend du temps pour remonter et remonter et remonter. Et des fois, c'est difficile. Ça fatigue. C'est embêtant. Même peut-être un peu embarrassant. Mais l'autre choix, c'est une descente très vite et très dangereuse, suivie par une attente très lente pour une équipe de sauvetage, suivie par un voyage très lent à l'hôpital, suivie par des commentaires de tes copains qui vont parler de ta descente spectaculaire pendant des années après. Ce n'est pas facile de repentir. Et c'est pour ça que souvent des gens se disent « Je ne veux pas remonter ». Je crois que je peux descendre ici sans me faire du mal. Mais sur la pente du péché, c'est impossible. Et ce n'est pas toi seulement qui souffres des conséquences de ton péché. Mais c'est aussi ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Ce n'est pas facile de se repentir. On voit d'autres personnes qui vont en insouciant sur la piste dangereuse. Et on pense qu'il arrive sain et sauf là-bas, mais sur cette piste double noire, c'est possible. Tu peux arriver en bas. Mais sur la piste du péché, ce n'est pas possible. La piste du péché a son prix. Et tout le monde qui choisit le péché va payer le prix éternel du péché. Sauf ceux qui se tournent vers celui qui a déjà payé le prix. Il a payé le prix pour le monde, pour toi, pour moi. Et tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux avoir le pardon de Dieu. Tu peux être libéré de tes péchés. Tu peux t'échapper de la mort éternelle. Ce qui attend tous ceux qui refusent de se tourner à Jésus, le mort éternel. Et se tourner à Jésus, ce n'est pas compliqué. C'est tout simple. Il faut admettre que tu as péché. Et ça, c'est évident, parce que tout le monde a péché. Tout le monde dans cette salle a péché. Si tu as une fois dans ta vie dit un mensonge, si tu as exagéré, tu as péché. Si tu as volé une fois dans ta vie, si tu as pris quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, tu as péché. Si tu as commis l'adultère une fois dans ta vie, si tu as une fois dans ta vie jeté sur une femme ou un homme un regard chargé de désir, tu as péché. Tout le monde a péché. Et ce péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu sois séparé de lui. Dieu est un Dieu d'amour. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Et même si nous nous sommes séparés de lui parce que nous avons choisi du péché, Dieu avait déjà un plan, une solution. Le péché méritait la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu est devenu un homme qui s'appelle Jésus. Jésus le Messie. Et Jésus a pris la peine de la mort pour nous, pour que nous ne soyons plus séparés de Dieu d'amour. Et puisque Jésus a payé le prix entier pour nous, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Amen. Mais c'est à nous de choisir. Dieu ne force personne. Tu peux aller en enfer et Dieu ne va pas te kidnapper et te forcer d'aller au ciel. C'est toi qui choisis. Et celui qui ne choisit pas Dieu, choisit l'enfer. C'est à nous de choisir. Pour venir à Dieu, il faut simplement confesser les péchés. Il ne faut pas les ignorer et demander pardon de Dieu. Amen. Jésus a acheté ce pardon pour nous en donnant sa vie sur la croix à Jérusalem. Il a montré que le prix était complètement payé quand il est ressuscité des morts. La dette est payée. Alors, il faut confesser tes péchés. Il faut te repentir de tes péchés et demander le pardon que Jésus a obtenu pour toi, pour moi et pour nous tous. Amen. Demande à Dieu d'être ton sauveur et ton Seigneur, et tu ne seras plus séparé de lui. Le problème du péché n'est plus un problème. Le problème de séparation de Dieu n'est plus un problème. Tu peux être sauvé. Tu peux être une nouvelle création. Tu peux être un enfant de Dieu. Jésus sauve et sauve toujours. Si tu es ici, tu n'es pas trop loin, trop perdu, trop pécheur. Tourne-toi à lui. Repentis-toi. Tu peux suivre Jésus. Il est le seul qui peut te sauver de la mort. Le seul. Donne ta vie à lui et il ne te quittera jamais. Peut-être que tu penses que tu peux prendre cette décision plus tard. Penses-tu que tu peux continuer ton chemin encore un petit peu? Et l'année prochaine, ou peut-être dans quelques années, quand tu auras des enfants, peut-être, ou peut-être quand tu seras vieux, avant de mourir. À ce point-là, tu vas prendre la bonne décision et entrer tranquillement au paradis en toute sérénité. Mon ami, je t'assure, plus longtemps que tu fais ce que tu veux, plus ton cœur s'endurcit et plus c'est difficile de se repentir. Plus tu descends la piste du ski, plus c'est difficile de remonter et te mettre sur la bonne piste. Chaque fois que tu fais un péché, c'est plus facile pour toi de faire un autre péché. Et chaque fois que tu fais un péché, c'est plus difficile pour toi de retourner à Dieu. Et peu à peu, ton cœur s'endurcit et tu t'éloignes de Dieu. Et puis tu commences à croire des mensonges. Et les mensonges remplissent tellement ton esprit que quand quelqu'un te parle de Dieu, tu te moques d'eux. Tu refuses de l'écouter. Tu te fâches. Et tu n'arrives plus à supporter la vérité. Tu penses qu'à ce point-là, tu arriveras à te repentir? Probablement pas. Il y a aussi quelqu'un qui pense que c'est impossible de se repentir maintenant. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Et cette relation est un péché, et tu le sais. Tu sais que c'est immoral. Tu sais que tu ne peux pas venir à Dieu et continuer dans cette relation. Et puisque tu penses que c'est impossible de briser cette relation, puisque tu penses que tu ne peux pas réussir sans cette personne, tu te dis que tu viendras au Seigneur plus tard. Peut-être que tu espères que cette personne viendra à Jésus. Et puis, tu pourras aussi accepter Jésus comme Seigneur et roi. Mais pour l'instant, tu penses que c'est impossible. Comment puis-je te convaincre? Il faut te repentir. La piste que tu as choisie n'est pas la bonne piste. C'est une piste dangereuse qui mène à la destruction. Cette personne que tu as choisie, au lieu de choisir la seule personne qui peut te sauver de la mort, comment cette personne va-t-elle choisir Jésus le Messie quand elle voit que tu as considéré un être humain plus important que le Dieu qui t'a créé? Si une femme qui veut suivre Jésus vit avec un homme qui n'aime pas son mari, elle pense que peut-être cet homme va se convertir. Elle pense qu'elle va l'influencer. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a déjà détruit, toute la raison qui pourrait le convaincre en entrant dans une relation immorale, en choisissant le péché comme plus important que le Dieu qui voit tout. Si quelqu'un regarde la télé tout le temps, te dit de ne pas regarder la télé, est-ce que tu vas l'écouter? Quand quelqu'un qui se dispute souvent avec ses voisins te dit qu'il faut vivre dans la paix avec tout le monde, est-ce que tu seras convaincu par cette personne? Non, absolument pas. Alors comment prends-tu l'idée qu'en choisissant de faire un péché, tu peux persuader quelqu'un de se tourner de péché? C'est ridicule ça. Il faut arrêter toute relation avec le péché. Si c'est une relation sexuelle, immoral, il faut le briser. Il faut te libérer. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi. Et tu ne peux pas avancer dans le plan de Dieu et continuer dans le péché. Tu fais plus confiance à cette personne qu'à Dieu. Ce n'est pas la bonne piste. Et cette piste ne te mène pas à une bonne destination. Plutôt au regret, aux larmes et souvent aux tragédies. Fais confiance à Dieu. Sépare-toi de ce qui te sépare de Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Il est fort. Il est ici. Et son amour n'a pas de fin. Viens à lui. Et attention, vous qui êtes célibataires. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui rencontrent quelqu'un qui est fascinant, intéressant, beau, charmant. Tout ce qu'on espère trouver dans un époux. Sauf que ce n'est pas un disciple de Jésus. Et ils sont attirés. Ils ne se détournent pas de cette personne. Et un jour, ils se marient. Souvent, cette personne qui est si fascinante, si intéressante, si belle, si charmante, promet de venir à l'église. Peut-être elle vient à l'église avec toi. Peut-être elle chante les chansons. Elle achète une Bible. Peut-être elle dit la même prière de salut. Et elle pense qu'elle a récité la formule magique. Elle a gagné l'entrée libre au paradis. Et elle peut continuer à vivre comme elle veut. Et toi, tu te maries avec cette personne, pensant que cette personne parfaite est devenue chrétienne. Et peu après le mariage, elle n'a plus envie d'aller à l'église. Elle n'a plus envie de prier. Elle continue dans ses péchés. Et elle n'a aucune idée pourquoi tu es étonné avec ce qu'elle fait. Elle a fait de ses péchés avant le mariage. Elle n'a pas changé. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu croyais qu'elle allait changer. Mais tu t'es trompé. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est tombé dans ce piège. Moi, je connais plusieurs. Un mariage d'alcoolisme, d'abus physique, un cercle qui a peur pour ses enfants. Ce n'est pas ça que tu veux, jeune homme. Ce n'est pas ça que tu veux, ma sœur. Fais attention, les jeunes. Veille sur ton cœur et ne donne pas ton cœur très vite. Trouve quelqu'un qui est vraiment un disciple, un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est peut-être difficile d'attendre, mais il faut attendre. C'est mieux d'attendre pendant des années que d'arriver vite dans une situation affreuse. Amen. Il faut marcher avec Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut faire confiance à Dieu pour t'aider à trouver un époux qui marche avec Jésus. Amen. Jésus est la seule personne qui peut te sauver. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Il t'a sauvé du péché. Il t'a sauvé de la mort. Il faut marcher avec celui qui t'a sauvé. Qui ici a déjà pris la décision de suivre Jésus pour le reste de sa vie? Lève ta main. Tu as déjà pris cette décision. Amen. J'ai pris cette décision il y a 45 ans. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je suis toujours de plus en plus content de l'avoir prise. Amen. Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, tu peux. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est la journée de salut. Amen. Alors, nous sommes sauvés. Nous qui avons pris cette décision de suivre Jésus, nous sommes sauvés. Mais nous sommes aussi en train d'être sauvés. Il y en a qui pensent, oui, c'est facile de prendre la décision. C'est choisir entre la vie et la mort, entre Dieu et la destruction, entre ce qui me sauve et ce qui me ruine. C'est facile, non? Et tu penses, mais j'ai pris la décision il y a longtemps, ou peut-être pas très longtemps, et j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Je sais que Jésus m'a sauvé, je sais qu'il m'a pardonné, j'essaie de le suivre, mais je n'ai pas la victoire. Je n'ai plus la joie que j'avais là, au début. Je n'ai plus l'assurance que j'avais quand j'ai pris cette décision. Tu as besoin d'un renouvellement. Comme la Bible nous dit, nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Et nous serons sauvés. Nous sommes sur la voie du salut. Nous sommes en train d'être sauvés. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de renouvellement? Le don de salut n'est-il pas un don éternel? Est-ce que le Saint-Esprit fait un travail intérim? Un CDD? Et après quelque temps, il n'est plus là? Je vous assure que ce n'est pas le cas. Le don de salut n'a pas une expiration. Il ne disparaît pas après 5 ans. Le Saint-Esprit n'arrête pas de travailler, d'agir, de nous aider, de nous marcher à côté de nous. Il est fidèle. Amen. C'est que nous avons besoin d'un renouvellement. Il y a plusieurs raisons pour ce besoin d'un renouvellement. Des fois, c'est le péché. Des choix que nous avons faits qui sont opposés à ce que dit la parole de Dieu. Et ce péché me sépare de Dieu. Et j'ai besoin de me repentir. Et j'ai besoin de renouveler l'alliance que j'ai conclue avec Dieu. David a fait ceci après une confrontation avec le prophète Nathan, qui l'a montré qu'il avait péché. David a dit ceci, et c'est la repentance, dans Psaume chapitre 51, versets 3 et 4. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes transgressions, tu es si compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Et David a continué avec ceci, parce qu'il savait qu'il avait besoin d'un renouvellement. Donc, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi en moi un esprit bien disposé. Le péché nous sépare de Dieu. Et quand nous sommes séparés de Dieu, il faut se repentir. Il faut un renouvellement de l'alliance que nous avons conclue avec Dieu. La Bible nous parle aussi d'une situation où le peuple de Dieu a refusé le plan de Dieu. D'abord, ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi, ce que Dieu ne voulait pas. Dieu était leur roi, et en demandant un autre roi, ils demandaient à voir quelqu'un d'entre eux et Dieu. C'était une séparation de Dieu. Aussi, il demandait un roi humain parce qu'il voulait être comme les autres nations qui habitaient autour d'eux et qui ne suivaient pas Dieu. Il voulait être comme les païens, comme le monde. Mais Dieu est patient. Il leur a donné un roi comme il a demandé. Et beaucoup d'entre eux n'étaient pas contents avec le roi que Dieu leur avait donné. Et ils commençaient à se plaindre. Malgré tout ça, Dieu a agi. Et quand l'ennemi les a attaqués, Dieu les a sauvés. Après la victoire, ils se rendaient compte de ce qu'ils avaient fait, que c'était une bêtise. Et ils se sont repentis. Et alors, il fallait renouveler l'alliance avec Dieu. En Samuel, chapitre 11, versets 14 et 15, Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül de roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent de grandes réjouissances. Ils se sont repentis. Ils ont marqué le point de leur repentance avec un renouvellement de l'alliance qu'ils avaient établie avec Dieu, qu'ils ont violé en désobéissant à ce que Dieu leur avait dit. Souvent, nous voyons le péché comme une bêtise, un crime que quelqu'un fait. On pense au vol, à l'adultère, au meurtre, au mensonge. Mais on peut aussi pécher, il ne faut pas oublier ceci, on peut aussi pécher quand on ne fait rien. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose et tu ne le fais pas, ça aussi, c'est un péché. C'est la révolte contre Dieu. Et la Bible dit que la révolte, c'est comme la divination, comme l'idolâtrie. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont libres de pécher, qui se disent, mais je n'ai rien fait. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de ne rien faire. En fait, Dieu nous demande d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et cela nous donne beaucoup à faire. Amen. Le revivaliste John Wesley disait ceci pour expliquer comment obéir à Dieu. Fais tout le bien possible, par tous les moyens possibles, de toutes les façons possibles, en tous les lieux possibles, à tous les moments possibles, à tous les gens possibles, aussi longtemps que possible. Refuser de faire ce que Dieu nous dit de faire, c'est aussi un péché. Nous avons aussi besoin d'un renouvellement parce que nous vivons dans un monde de péché. Nous voyons des péchés partout où nous allons. Et ce que nous voyons et entendons, c'est comme la pollution dans l'esprit. Ça entre dans l'esprit si nous n'arrivons pas à le bloquer. Romains chapitre 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Amen. Éphésiens 4, 22 et 24. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Quand tu t'assis à côté de quelqu'un qui fume, toi aussi tu fumes, parce que tu respires l'air pollué par les cigarettes. Et ce que tu respires fait des dégâts dans tes poumons aussi. Même si tu n'as jamais touché une cigarette, quand tu vois les publicités ici à toi, qui essaient de provoquer des pensées immorales, et cette image va coller sur l'écran de ton cerveau, tu as besoin d'un renouvellement. Quand tu vas dans le supermarché ou dans un magasin, et tu entends la musique avec des paroles immorales, et cette musique se répète dans ta tête, tu as besoin d'un renouvellement. Nous avons tous besoin d'un renouvellement. Nous sommes sauvés, mais nous sommes aussi en train d'être sauvés. Nous aurons besoin d'un renouvellement jusqu'au jour où notre roi revient nous chercher. Amen. Parce qu'un jour, nous serons sauvés. Peut-être il viendra aujourd'hui. S'il vient aujourd'hui, es-tu prêt? Si aujourd'hui c'est le jour où il interrompt les royaumes de ce monde, es-tu prêt à partir? Les Moraviens, ces gens qui avaient une réunion de prière qui a duré 100 ans, qui étaient prêts à se vendre comme esclaves pour pouvoir prêcher l'évangile aux esclaves. Ces Moraviens avaient un dicton qu'ils disent souvent. Jésus va probablement revenir aujourd'hui. Et s'il ne revient pas aujourd'hui, il y aura plus d'âmes sauvées au coucher du soleil qu'il y a maintenant. Ils étaient prêts à partir. Mais ils étaient aussi prêts à faire le travail pour construire le royaume de Dieu. Si tu es prêt, tu sais aussi quand il vient, tu seras sauvé. Si tu es prêt, tu sais que quand ton âme aura fini de marcher dans ce corps mortel, quand ton âme quitte ce corps mortel pour monter en haut, pour aller à notre patrie, tu sais que quand tu montes en haut, tu seras sauvé. Amen. Fini, sauvé, complètement sauvé. Et en attendant ce jour-là, nous avons un royaume à construire pour un roi qui vient. Amen. Et puisque nous savons qu'il vient, nous nous préparons pour son avènement. Puisque nous savons qu'il vient, nous disons aux autres de se préparer aussi. Comment se préparer? Nous nous repentissons. Nous disons aux autres de se repentir. Cela veut dire que ce n'est plus moi qui décide, c'est lui qui décide. Mon plan change pour devenir son plan. Mes choix deviennent ses choix. Il est mon roi, parce qu'il est le roi de l'univers. Et je ne veux plus révolter contre lui. Amen. Un jour, nous serons sauvés. L'éternité, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Mais cette vie que nous avons, c'est courte. Si tu vis 100 ans sur cette terre, tu vivras 100 milliards d'années et encore plus que ça dans l'éternité. Et tout ce que tu auras en éternité, c'est ton âme et le stockage des récompenses que tu as mis en nom pendant le temps que tu étais sur cette terre. Et les autres âmes que tu as aidées de marcher avec Jésus. Tu n'as pas une valise remplie d'or. C'est seulement la récompense que tu as mis en nom pendant le temps que tu étais sur cette terre. Mais au ciel, tu n'auras plus de souffrance. Tu n'auras plus de maladie. Tu n'auras plus de larmes. Tu n'auras plus de ténèbres. Tu n'auras plus d'ennemis. Un jour, nous serons sauvés. Encourageons-nous avec ces paroles. Amen.